Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. 20 ans après, Toulouse toujours blessée et divisée. Cérémonie de commémoration de la catastrophe AZF ce matin. Récit dans un instant, puis nous parlerons longuement de ces 20 ans à Toulouse avec nos invités à 13h30. J'attends vos questions et témoignages, particulièrement si vous êtes Toulousain, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Le jury Goncourt ne voit pas de conflit d'intérêts après les révélations de France Inter. Le livre du compagnon d'une des jurées, Camille Laurent, sur la première liste du prix, Ilana Mor Youssef nous donne les détails. Ne pas laisser le silence retomber. La commission indépendante sur l'inceste lance aujourd'hui un appel à témoins et une plateforme téléphonique. Son président, le magistrat Édouard Durand, est avec nous. Dans l'actualité encore, dans la crise diplomatique entre France et États-Unis, l'heure n'est pas à la réconciliation mais à la clarification, dit un conseiller d'Emmanuel Macron sur France Inter. Marine Le Pen appelle le président à sortir de son silence. Reportage à Kaboul, fonctionnaire au temps des talibans, des moines intégristes mis en examen pour atteinte à des antennes 5G. 680 millions d'euros levés par une entreprise française des nouvelles technologies, c'est un record. Et puis la météo, pour le dernier jour de l'été, le soleil revient. Vos rendez-vous dans le 13-14, parole de militants de gauche dans le feuilleton. Un écologiste aujourd'hui, c'est l'entre-deux-tours de la primaire. Qu'est-ce qu'une installation artistique? L'œuvre posthume de Christo, l'Arc de Triomphe emballé, inspire Jean Lebrun. Et puis le metteur en scène Jean-Michel Ribe est avec Frédéric Pommier dans C'est une chanson. Il choisit Vianney. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
10h17. Pour combien de Toulousains, cette heure précise est gravée dans la mémoire et même dans le corps. 10h17, le 21 septembre 2001, explosion sur le site de l'usine AZF. C'était il y a 20 ans. Bénédicte Dupont, une fois de plus, ce matin, les commémorations n'ont pas été le moment de rassemblement qu'elles pourraient être.
Il y a d'abord eu, à contre-temps, les retrouvailles des associations de riverains, les sinistrés du 21 septembre et le collectif Plus Jamais Ça, regroupé avec la CGT au rond-point du 21 septembre, à près de 2 kilomètres du mémorial. Impossible même pour ces 20 ans d'enterrer la hache de guerre pour la présidente des sinistrés du 21 septembre, Pauline Miranda.
Je ne pourrais pas être sur le site en présence des responsables qui ont causé l'accident. Que nous, victimes, on n'abandonnera pas, on ne lâchera pas pour que enfin, les victimes soient enfin reconnues et non pas méprisées.
Les années, les trois procès, la condamnation de Total n'ont pas apaisé les rancœurs. Et il aura fallu attendre 20 ans pour que la mairie installe 9 panneaux explicatifs au mémorial, dont le texte a fait l'objet de longues tractations. Avec cette mémoire d'AZF, le maire Jean-Luc Moudenc marche sur des
œufs. On a fait un travail en commun, on a fait le maximum de ce qu'on pouvait en commun. Après, vous savez, moi je respecte les douleurs, je respecte la diversité des opinions. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup souffert. Ils ont souffert différemment. Et ce n'est pas à moi à choisir, à prendre parti pour une souffrance contre une autre.
Des souffrances, une cérémonie, un anniversaire qui n'ont visiblement pas retenu l'attention des autorités. Aucun membre du gouvernement n'a fait le déplacement à Toulouse.
Et cet accident industriel, la trace qu'il laisse à Toulouse, nous en parlerons à 13h30 avec nos deux invités. Julien Corbière, le rédacteur en chef de France Bleu Occitanie, qui sort un podcast pour ce 20e anniversaire, entre guillemets, Mon AZF, histoire de Toulousain. Et puis Frédéric Arroux, ancien président de l'association des sinistrés du 21 septembre. J'attends vos questions et témoignages, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. C'est une information que nous vous révélions ce matin sur France Inter, grâce à Ilana Mor Youssef. Dans leur première liste, à 2 mois de la remise du prix, les jurés Goncourt ont sélectionné, en toute connaissance de cause, le livre du compagnon d'une des membres du jury. Les enfants de Cadillac, chez Gallimard, œuvre de François Nudelman. Il est le compagnon de Camille Laurence. Bonjour Ilana.
Bonjour.
Un certain émoi s'est emparé depuis ce matin du monde littéraire, mais les Goncourt estiment qu'il n'y a pas conflit d'intérêts.
C'est en effet la position officielle de l'Académie Goncourt. Son secrétaire général, le romancier Philippe Claudel, l'a reprécisé il y a quelques instants.
Lors de notre réunion, Camille Laurence nous a expliqué les liens qu'elle entretenait avec François Nudelman, en précisant que c'était des liens de compagnonnage. Il n'était pas marié, il n'y avait pas d'union civile, que lui était à New York, elle à Paris. À la suite de cela, il y a eu un vote, et effectivement, le vote a fait qu'il a été inscrit à côté de 15 autres titres.
Est-ce que Camille Laurence a pris part au vote?
Oui, elle a pris part au vote, ce qui est tout à fait normal, comme jurée de cette académie.
Elle ne s'est pas mise en retrait du fait de ses liens avec François Nudelman?
Non, d'autant que, comme je vous le disais, Camille nous a expliqué que ces liens n'étaient pas des liens, je veux dire, extrêmement étroits au point d'être mariés ou pacsés, mais que c'était une sorte de compagnonnage amoureux et nous n'avons pas à juger non plus des histoires qui lient les uns et les autres.
Le conflit d'intérêts concernerait donc uniquement les cas où on est marié, pacsé, ascendant ou descendant direct d'un membre du jury.
Précisons que vous avez sollicité, Ilana Camille Laurence, qu'elle n'a pas répondu. Il y a un autre volet à cette affaire. Il concerne la chronique consacrée par Camille Laurence, un autre livre de la sélection.
Oui, car Camille Laurence tient un feuilleton littéraire chaque semaine dans le monde des livres. Et la semaine dernière, elle s'en est pris violemment à un roman présent dans la liste du Goncourt, roman qui présente la particularité d'aborder le même thème que celui de son compagnon. C'est peu dire que l'Académie n'a pas apprécié et lors de leur prochaine réunion le 5 octobre prochain, les académiciens pourraient décider de s'imposer une nouvelle règle. On ne parle pas, ni en bien, ni en mal, d'un livre de la sélection. Une sorte de devoir de réserve jusqu'à la proclamation du prix.
16 auteurs sont encore en lice pour ce prix Goncourt 2021. La prochaine sélection aura lieu le 5 octobre. Et sur cette histoire que vous nous révéliez ce matin, Ilana, tous les détails sont à retrouver sur franceinter.fr. Voici un succès français qui concentre beaucoup d'ingrédients d'époque. L'entreprise Sorare, fondée à Paris il y a à peine 3 ans, vient de lever près de 700 millions de dollars auprès d'une série d'investisseurs, 680 millions précisément, ce qui est un record pour une entreprise des nouvelles technologies en France pour ces sociétés qu'on appelle les licornes. Plus d'un milliard de valorisation. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
Je le disais Laurent, l'activité de Sorare, c'est un concentré d'époque.
Oui, et je vous donne la recette Bruno. Mélangez un peu de crypto-monnaie, des enchères numériques, de la rareté avec des cartes virtuelles de joueurs de foot achetées et revendues donc en ligne grâce à la technologie blockchain. Vous obtenez alors l'équivalent numérique des cartes de foot Panini, jusqu'ici échangées dans les cours de récré. Sorare réinvente la passion des collection de cartes de joueurs de foot et de leurs équipes avec également un jeu en ligne pour organiser ses propres championnats. L'application permet donc aux fans d'acheter des cartes de leurs joueurs préférés, de constituer leurs équipes. L'unique carte de Cristiano Ronaldo s'est ainsi revendue à titre d'exemple en mars dernier, près de 300 000 euros quand même, sous la forme de crypto-monnaie. Il y a évidemment de la spéculation. En annonçant cette levée de fonds record de 680 millions d'euros, la start-up française annonce également qu'elle ouvre un bureau aux États-Unis pour partir à l'assaut des clubs américains. Son fondateur estime que Sorare pourrait atteindre 1 milliard d'euros de revenus d'ici les 3 prochaines années.
Dans le domaine de la finance encore, entrée en bourse réussie pour Universal Music, plus 35% pour l'action en début de matinée après les premiers échanges. Universal était jusque-là filiale de Vivendi. L'action Vivendi, en revanche, est en très forte baisse à la Bourse de Paris, moins 14,5%. L'État paiera davantage à partir de l'année prochaine pour le financement du RSA en Seine-Saint-Denis. Il y a toujours plus d'allocataires. Le coût du RSA dans le département était de 220 millions en 2004. Il est de 550 millions désormais. À partir de l'an prochain, au-delà de 520 millions, l'État prendra en charge. Le cap des 50 millions de primo-vaccinés a été passé vendredi en France. Chez les plus jeunes, les 12-17 ans, près de 70% ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid. Mais les laboratoires Pfizer et BioNTech communiquent déjà sur l'effet de leurs produits sur les moins de 12 ans. Il est sûr et bien toléré, ont-ils annoncé hier, par les 5-12 ans dans un communiqué. Réflexion d'Odile Launay, elle est infectiologue et professeure à l'Université de Paris.
Pour l'instant, nous n'avons pas de données, c'est une communication des laboratoires qui montre une bonne réponse immunitaire chez l'enfant, ce qui est attendu. On sait que les enfants répondent plutôt mieux que les adultes à des doses plus faibles que celles qui sont utilisées chez les adolescents ou chez les adultes. Donc on a des données en termes de réponse immunitaire. Ils annoncent que les vaccins sont bien tolérés, mais il faut rester prudent. D'une part, on n'a pas vu ces résultats. Et d'autre part, ils ont inclus dans ces essais 2200 enfants, ce qui est relativement faible, un petit nombre, avant d'être assuré qu'on n'aura pas d'effet indésirable sur un plus grand nombre d'enfants. Donc je crois qu'on doit avoir plus de données sur un nombre plus important d'enfants. Le bénéfice pour l'enfant, il est relativement limité dans la mesure où le Covid n'est pas une maladie grave chez l'enfant. Et on doit avoir la possibilité d'évaluer de la façon la plus précise possible les risques avant de partir sur une vaccination à large échelle de ces enfants.
Le professeur Odile Launay sur France Info. L'épidémie de Covid continue de régresser en France. 1515 nouveaux cas hier. Lundi dernier, c'était plus de 2000. 1000 personnes de moins à l'hôpital en une semaine.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvic.
Ce mardi est un jour important pour la commission indépendante sur l'inceste. Elle lance un appel à témoins. Une plateforme téléphonique est ouverte. Cette commission a été lancée il y a moins d'un an. Faut-il rappeler le contexte? La parution en janvier dernier du livre de Camille Kouchner et le flot de témoignages qui a suivi sur les réseaux sociaux. On estime à 160 000 le nombre d'enfants victimes de violences sexuelles chaque année. Bonjour Édouard Durand.
Bonjour.
Magistrat, juge des enfants, co-président de cette commission, qui est composée d'avocats, de magistrats, de psychologues, de médecins, de chercheurs, de forces de l'ordre. Comment va fonctionner, Édouard Durand, cette plateforme téléphonique?
Les personnes qui ont été victimes ont besoin que la parole, leur parole, soit entendue et prise en compte jusqu'à construire une politique publique. Notre devoir était d'organiser cette plateforme pour que chaque personne qui nous fasse confiance et appelle soit écoutée, entendue par des écoutantes, des écoutants qui ont l'expertise des violences sexuelles. L'expertise des violences sexuelles, ça veut dire ne jamais banaliser, croire la personne qui révèle des violences, être en capacité d'évaluer son état émotionnel au moment où elle témoigne et, le cas échéant, lui proposer un accompagnement, une aide, un soutien.
Qui va écouter? Vous allez confier cette plateforme à deux associations.
Oui, deux associations nous ont dit nous pouvons remplir cette mission de service public, le collectif féministe contre le viol et SOS Crise. Deux associations parce que nous voulions que les personnes appellent de Clermont-Ferrand ou de Tahiti, de Mulhouse ou de Fort-de-France aient les mêmes disponibilités en termes de fuseau horaire chaque jour du lundi au vendredi de 10h à 19h.
0805 802 804 et 0800 100 811 si on appelle d'outre-mer, 10h 19h lundi vendredi, vous l'avez dit, je redonnerai ces numéros à la fin de l'entretien. Anonymat garanti,
c'est un service complètement anonyme et gratuit, c'est la moindre des choses.
Est-ce que le cas échéant vous serez amené à saisir la justice?
Oui. À l'évidence. Il y a deux choses importantes. La première, c'est que cet appel à témoignage s'adresse prioritairement à des personnes adultes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance et parfois sans en avoir jamais parlé à quiconque. Et il est important que chacun aujourd'hui sache que si un enfant est en danger aujourd'hui, maintenant, et doit être protégé, il faut appeler la police, le tribunal ou composer le 119. Nous serons nous-mêmes amenés à réorienter des appels vers les services de protection. Mais cet appel à témoignage est indispensable pour construire une politique publique de protection.
Vous disiez, il est important que les gens se disent « on va me croire ». Cela signifie qu'il n'y a pas de vérification des propos que vous allez entendre?
Non, vous savez, le 23 janvier dernier, le président de la République s'adressait à toutes les personnes victimes de violences sexuelles et leur disait « vous n'êtes plus seul, on vous croit ». Et ceci est absolument fondamental parce que nous savons que les violences sexuelles faites aux enfants sont un phénomène extrêmement massif dans leur ampleur. Et que pourtant, lorsqu'une personne révèle les violences qu'elle subit, on ne les croit pas. Et ceci doit changer parce que le risque qu'il s'agisse de fausses dénonciations ou d'erreurs est quasiment inexistant. Quand un enfant dit « on m'a fait du mal, j'ai subi des violences sexuelles », il faut le croire. Et un enfant qui révèle des violences ou une personne adulte qui révèle des violences et qui perçoit dans le regard de son interlocuteur qu'elle n'est pas crue, risque un effondrement psychique et perd confiance dans le monde des adultes. L'appel à témoignage de la commission aujourd'hui, c'est « Ensemble, sortons du silence et vous pouvez croire, faire confiance dans le monde des adultes qui veut être plus protecteur ».
La commission a déjà recueilli des témoignages. Édouard Durand, qu'est-ce qu'il en ressort ?
Écoutez, c'est très fort. Moi, je suis juge des enfants depuis une vingtaine d'années, rencontrer des enfants ou des adultes qui ont été victimes de violences très graves, et notamment de violences sexuelles, et particulièrement d'inceste. C'est une expérience que j'ai déjà eue, et c'est toujours très fort. Comme lorsque, actuellement, nous recevons à la commission des personnes, quel que soit leur âge, qui viennent nous faire confiance et nous donner leur témoignage. Et qui disent des choses qui peuvent être « j'ai l'impression de payer toute ma vie ». pour ce que j'ai subi. Ou bien qui nous disent, après 2 heures d'audition, vous ne savez pas à quel point ça me fait du bien que ma parole soit écoutée par une instance publique.
Alors toutes ces paroles, d'abord, cette plateforme est ouverte combien de temps ?
À mesure que nous recevons des personnes victimes, notre conviction se renforce à chaque fois. Nous devons laisser cette possibilité jusqu'au dernier moment de la commission et peut-être même après, parce que il est manifeste que cela répond à un besoin qui était attendu très fortement.
La commission est en place en principe jusqu'en 2023. Vous le disiez au début de cet entretien, l'idée est aussi de bâtir une politique publique à partir de ces paroles. Quelle piste, quelle politique publique peut-on imaginer ?
Nous voyons bien que nous sommes face à un premier problème auquel nous devons nous attaquer, qui est en face du nombre très important de violences sexuelles, vous l'avez dit, 160 000 chaque année, il y a un chiffre de 70% de classement sans suite. Il faut que les inspections générales des ministères nous appuient, donnent leur concours à la commission pour que nous arrivions à évaluer où sont les failles dans les politiques publiques, où sont les besoins des professionnels. De la même manière, une autre piste, nous savons que les enfants victimes de violences sexuelles, mais aussi les personnes adultes qui subissent un psychotraumatisme majeur, ont besoin de soins spécialisés en psychotrauma dans l'urgence. Il faut donc que nous renforcions la capacité des psychologues, des psychiatres, des pédopsychiatres de donner aux enfants victimes des soins, mais des soins spécialisés dans l'urgence.
Le juge des enfants Édouard Durand, co-président de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, entretien enregistré en milieu de matinée. Comme promis, je vous redonne les numéros pour joindre la plateforme téléphonique de 10h à 19h du lundi au vendredi. 0 805 802 804, et si vous appelez d'outre-mer, 0 800 100 811. L'affaire des sous-marins australiens prend un peu plus d'ampleur et chaque jour un tour politique. Le groupe socialiste au Sénat demande aujourd'hui une commission d'enquête sur son changement de pied de l'Australie qui a finalement choisi les sous-marins américains. Marine Le Pen appelle Emmanuel Macron à sortir de son silence. Il va d'échec en échec depuis le début de son mandat, estime la leader d'extrême droite. Cette crise diplomatique avec les États-Unis tombe en pleine Assemblée générale de l'ONU à New York. On en parle dans un instant avec Bertrand Galichet. D'abord, le conseiller politique d'Emmanuel Macron était ce matin l'invité de France Inter, alors que le chef de la diplomatie française a de nouveau dénoncé une décision brutale, une rupture de confiance entre alliés ces dernières heures à New York. Écoutez Stéphane Séjourné avec Léa Salamé.
L'opération diplomatique française n'est pas terminée. Il y aura une discussion entre le président de la République et Joe Biden dans les jours qui viennent, avant la fin de la semaine. D'ailleurs, cet échange ne sera pas un échange de réconciliation, mais sera un échange de clarification. Parce qu'il y a eu un problème sur le fond et sur la forme.
Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Bruno.
Dans les heures à venir, l'Assemblée générale des Nations unies va donc s'ouvrir à New York. Joe Biden sera parmi les premiers à s'exprimer à la tribune. Après le retrait unilatéral d'Afghanistan et cette affaire des sous-marins, la France va suivre son intervention de très près.
Oui, et d'abord, il faut être conscient que cette querelle diplomatique préoccupe beaucoup plus l'Élysée que la Maison-Blanche, et il n'est pas certain que Joe Biden, qui sera le troisième à prendre la parole cet après-midi, après le secrétaire général de l'ONU et le brésilien Bolsonaro, y consacre l'essentiel de son discours. Les États-Unis sont certes un peu gênés d'être les bénéficiaires des manigances australiennes dénoncées par la France, mais les Américains ont un agenda prioritaire pour la zone Asie-Pacifique, et la mise à l'écart des Français dans un marché militaro-industriel n'est pas une question majeure pour eux. Washington se focalisera aujourd'hui sur l'intervention du président chinois Xi Jinping, qui s'exprimera via une vidéo préenregistrée. Le bras de fer avec la Chine obsède Joe Biden et les États-Unis ne voient pas dans les tensions actuelles entre Washington et Paris une catastrophe.
L'opération diplomatique française n'est pas terminée, disait à l'instant le conseiller politique d'Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné. Comment, Bertrand, la diplomatie française peut-elle sortir de cette crise ?
Eh bien, c'est la mission de Jean-Yves Le Drian, arrivé hier à New York et qui a une nouvelle fois dénoncé une décision brutale et une rupture de confiance entre alliés. Il faudra bien, à un moment ou à un autre, et sans perdre la face, Faire revenir à Washington l'ambassadeur Philippe Étienne et renouer avec les États-Unis. La France a beau se targuer de la solidarité de l'Europe après la réunion hier soir des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. La France est quand même bien seule parmi les 27 à se préoccuper de la zone Indo-Pacifique. Les négociations sur le traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie, qui reprennent le mois prochain, pourraient toutefois servir de levier pour infléchir la position de Canberra.
La sortie de crise et l'influence de la France dans cette zone Indo-Pacifique passe-t-elle par l'Inde ? Coup de fil Macron-Modi, le Premier ministre indien. Ils réaffirment ensemble leur volonté d'agir conjointement pour promouvoir la stabilité et écarter toute forme d'hégémonie dans la région. C'est ce que fait savoir l'Élysée. Le gouvernement est au complet, mais il n'y a toujours aucune femme. Les talibans ont nommé ce matin de nouveaux ministres pour compléter la liste présentée au début du mois. La promesse d'un gouvernement inclusif est mal en point. Autre promesse, vont-ils la tenir ? Nous avons assez d'argent pour payer les fonctionnaires, assurent les talibans, alors que le financement international de l'Afghanistan est largement tari depuis leur arrivée au pouvoir. Comment travailler avec les talibans quand on est fonctionnaire et que l'on a exécuté les ordres du précédent régime ? L'envoyé spécial de France Inter en Afghanistan, Eric Biegala, a rencontré deux Afghans dans cette situation. Reportage.
C'est dans un parc, un jardin public, partiellement transformé en camp de réfugiés d'un côté, en terrain de cricket de l'autre, que deux fonctionnaires acceptent de raconter leur quotidien sous la férule talibane, discrètement. Sabour travaille toujours au ministère de la Culture, son quotidien n'a pas changé depuis l'arrivée des talibans, sauf pour ce qui est de certains de ses collègues.
Les talibans nous ont dit que les femmes travaillant dans notre département ne devaient venir que le dimanche et seulement pour signer une feuille de présence. Je crois comprendre qu'ils vont faire un immeuble séparé pour les femmes.
Mais cette ségrégation n'est pas le problème numéro un de Sabour.
Depuis plus de deux mois et demi, nos salaires n'ont pas été versés. La dernière fois, c'était au début de l'été, durant la période de l'ancien président.
Jabbar, lui, a perçu son salaire normalement, et ce, alors même qu'il émarche dans une administration qui n'était autre que l'ennemi juré des talibans, la NDS, les services de renseignement afghans.
Je travaille dans un département très sensible de la sécurité, et officiellement, je suis toujours en fonction, mais je ne vais pas au bureau. Je n'y ai été que deux fois, pour voir. Et officiellement, notre activité est en sommeil.
Selon Jabbar, 70% des agents de la NDS sont restés en Afghanistan et attendent avec inquiétude de savoir comment ils vont être traités.
Ce reportage d'Éric Biegala à Kaboul, en Afghanistan. Nous en parlions longuement hier. Après une campagne difficile, Justin Trudeau et son parti libéral remportent les législatives au Canada. Semi-victoire, pas de majorité absolue, mais c'est tout de même en gagnant qu'il s'est présenté devant ses partisans. Ce n'est plus la Trudeau-mania de 2015, lorsqu'il avait conquis le pouvoir en quadra à la manière d'un Blair, d'un Obama ou d'un Macron. Mais sauf si les négociations de coalition échouent, il reste Premier ministre.
Quand je suis devenu Premier ministre il y a 6 ans, on ne savait pas que notre pays ferait face à la pandémie du siècle ou à une crise économique mondiale. Ce que je savais déjà, par contre, c'est qu'ensemble, les Canadiens sont capables de surmonter tous les obstacles. Et c'est exactement ce qu'on va continuer de faire. Je vous ai entendu. Ça vous tente plus qu'on parle de politique ou d'élection. Vous avez élu un gouvernement à Ottawa qui va livrer pour vous à tous les jours. On vous entend.
La vie quotidienne plutôt que la politique politicienne est Ottawa, capitale du Canada, évidemment. En France, la curiosité du jour, c'est une histoire très sérieuse. Deux moines viennent d'être arrêtés et mis en examen dans la région lyonnaise pour avoir détruit ou tenté de le faire des antennes 5G. Mathilde Imberti.
Les deux moines ont été interpellés en flagrant délit dans la nuit de mercredi à jeudi dernier par des gendarmes sur leur garde. Ils comptaient incendier une antenne relais dans le Beaujolais. Seulement la veille déjà, à moins de 10 km de là, commune de Saint-Forgeux, ils sont soupçonnés d'avoir provoqué un début d'incendie sur une antenne provoquant des dégâts légers. Tout de suite placés en garde à vue, les deux hommes, 39 et 40 ans, ont reconnu les faits. D'après la procureure, ils ont déclaré vouloir prémunir la population des effets nuisibles de la 5G. Le résultat, c'est qu'ils sont mis en examen et que le regard se tourne d'un coup vers ces moines capucins du Beaujolais qui vivent sous un régime de pauvreté, sans téléphone, au sein du couvent Saint-François à Villiers-Morgon. Il s'agit de la communauté capucine d'observance traditionnelle rattachée à la fraternité Saint-Pie X. Les deux moines interpellés assurent l'aumônerie au sein de l'école proche du couvent. Leur avocat pressent qu'ils seront rapidement écartés de leurs fonctions, sanctionnés certainement par le droit canonique. Et ceci en attendant que la justice décide si cette affaire doit donner lieu à un procès au pénal. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Comment développer l'usage du vélo pour les trajets domicile-travail ? Voici un exemple de grande entreprise qui joue le jeu. Saint-Gobain, usine de Chambéry en Savoie. 35% des salariés utilisent une bicyclette de fonction, alors qu'en moyenne c'est 3%. Quel est le secret ? Élément de réponse, Cécilia Arbonin.
Dans cette usine savoyarde qui fabrique du placo-plâtre, la majorité du personnel réside dans un rayon de 10 à 15 kilomètres. Quand les premiers vélos de fonction ont été livrés au printemps, il a fallu rapidement augmenter les commandes. Alain-Pierre Thivan, directeur du site de Saint-Gobain.
Alors chez nous, toutes les catégories socio-professionnelles ont adhéré au programme. On a effectivement moins de voitures sur le parking et un parking vélo qu'il a fallu étendre. On n'a pas encore de peloton qui vienne à l'usine, mais par contre dans les conversations, on entend les ouvriers qui parlent des kilomètres de vélos qu'ils ont parcourus. Donc il y a une sorte d'émulation qui opère aujourd'hui.
Pionnière sur le secteur du vélo en leasing pour les entreprises depuis 2018, la société Zenride revendique aujourd'hui une centaine de clients.
Un salarié en France qui utilise sa voiture tous les jours, ça va lui coûter environ 500 euros par an.
Antoine Repussard, cofondateur.
Entre le coût de la voiture, l'assurance, les révisions et l'essence. Grâce au service Zenride, un collaborateur peut avoir accès à un vélo électrique classique pour seulement 31,50 € par mois.
Signe que l'on peut pédaler par tous les temps, le groupe Aigle, spécialisé dans les vêtements de pluie et les bottes en caoutchouc, va proposer lui aussi des vélos de fonction à ses employés.
À 2 ans des Jeux Olympiques de Paris, le recrutement des volontaires se met en place. Fanny Lechevestrier, le comité d'organisation vient d'adopter le plan de recrutement. Déjà beaucoup de détails pour ceux que cela intéresse, même si on ne peut pas encore s'inscrire, c'est bien cela ?
Alors la plateforme pour postuler n'ouvrira qu'en février 2023, mais d'ores et déjà Paris 2024 souhaite attirer l'attention des Français avec un message clair, précise Mickaël Aloisio, le porte-parole du comité d'organisation. Tout le monde peut faire partie des 45 000 volontaires prévus pour ces Jeux.
Vous êtes étudiant, vous êtes retraité, vous êtes salarié. On a beaucoup de demandes de gens qui veulent déjà poser leur congé pour être volontaire. C'est assez dingue, les gens qui nous parlent de ce programme-là. Il n'y a pas de profil type.
Une condition tout de même à remplir. Il faudra avoir 18 ans en 2024. En revanche, pas de limite d'âge inverse à Tokyo cet été. Le doyen avait 91 ans. Donner les critères de recrutement si tôt doit également permettre, selon Mickaël Aloisio, de toucher des personnes qui n'auraient pas forcément l'idée de postuler. Et là, les acteurs locaux ont un rôle à jouer dès maintenant.
C'est un programme qui doit nous permettre de refléter toute la diversité des gens qu'on a envie d'embarquer. En amont, on va travailler avec les fédérations sportives, les collectivités hôtes, pour aller identifier les meilleurs candidats en avant-première.
Le tout avec la parité à respecter. Les volontaires, en revanche, rappelle le comité, auront tous le statut de bénévole. Autrement dit, pas de rémunération ou de dédommagement. Paris 2024 espère recevoir une centaine de milliers de candidatures.
À propos de sport, son père était connu pour être beau gosse, lui s'appelle Romeo. Romeo Beckham a fait ses débuts de footballeur professionnel le week-end dernier avec l'équipe de Miami aux États-Unis. Il joue à l'aile droite comme papa. Dans un instant, la météo.
Les fenêtres bois, votre plus belle vue sur l'avenir.
Pourquoi les fenêtres bois ?
Elles répondent aux besoins de mes clients. Le bois est naturel, respecte l'environnement et offre d'excellentes performances. Isolation, solidité ou encore résistance à l'effraction. Et avec la peinture appliquée en usine, t'es tranquille pendant des années.
C'est la fenêtre parfaite.
C'est la fenêtre bois.
Faire le choix d'une fenêtre bois sur mesure, c'est privilégier un matériau naturel, performant et fabriqué en France. Plus d'infos sur bois.com. Action à l'initiative de la CAPEB, l'UMB, FFB et l'UFME avec le soutien du Codifab.
Ouvrez vite la porte du voyage sans retour. Le nouveau roman de David Diop après le succès de Frères d'âme. Découvrez l'odyssée bouleversante d'un amour impossible. La quête passionnée d'un célèbre botaniste qui tente au XVIIIe siècle de retrouver une jeune femme africaine destinée à l'esclavage. Quand l'idéal des Lumières est confronté aux réalités de l'esclavage. Un roman d'amour et d'aventure captivant, une langue à la beauté éblouissante. La porte du voyage sans retour de David Diop vient de paraître aux éditions du Seuil et sur la sélection France Inter Le Point de la rentrée littéraire.
France Inter aime
Le Sommet des Dieux, un film d'animation de Patrick Imbert, adapté du célèbre manga japonais de Hiro Taniguchi et Baku Yumemakura.
Grimper, grimper encore, toujours plus haut. Et après ?
À Katmandou, un reporter japonais croit reconnaître un alpiniste que l'on pensait disparu. Il décide alors de partir à sa recherche.
8 ans qu'il se prépare. Cette ascension, c'est tout pour lui. Ne cherche pas, elle suivra tout prix.
Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert, le 22 septembre au cinéma, un film France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Plus de soleil pour ce dernier jour d'été.
Et oui, sur les régions du Nord, en effet, c'est le soleil qui s'impose. Alors, un petit peu plus de nuages du côté de la Champagne et de la Bourgogne pour le moment, mais ça va s'arranger. Sur la moitié sud, là, les nuages restent assez nombreux avec parfois une averse. Elles sont plus nombreuses sur les Pyrénées, ces averses. On peut même avoir quelques flocons au-dessus de 2200 mètres. En Méditerranée, le ciel hésite entre soleil et nuages. Parfois une averse pour les Bouches-du-Rhône et pour la Corse. Les températures sont en légère hausse cet après-midi. 19 degrés à Cherbourg, à Lille, à Nancy, 20 degrés à Paris, Châteauroux et Toulouse. 22 à Bordeaux, 23 à Nantes, jusqu'à 27 à Ajaccio. Demain, on aura beaucoup de soleil, Bruno, un petit peu de brouillard quand même le matin. Il fera bien frais le matin, mais ça sera agréable l'après-midi. 23 degrés attendus à Paris et 25 à Toulouse.
Élodie Calac, Météo France, tout de suite avec nos invités. 20 ans de traumatisme après AZF à Toulouse.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
C'est la catastrophe industrielle la plus importante en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a 20 ans, 21 septembre 2001, explosion à l'usine AZF de Toulouse. 31 morts, des milliers de blessés, une partie de la ville ravagée. 87 000 dossiers d'indemnisation ont été ouverts. En 2017, après des années de procès, le directeur de l'usine a été condamné à 15 mois de prison avec sursis. La société Grande Paroisse, filiale de Total, a 225 000 euros d'amende pour faute caractérisée, négligence, manquement aux obligations de prudence. AZF reste à beaucoup d'égards une blessure ouverte à Toulouse. Pourquoi ces trois lettres provoquent-elles encore des divisions dans la ville? Qu'est devenu le site? Les ouvriers? Voilà quelques questions que nous allons aborder jusqu'à 13h45. Nos deux invités sont Frédéric Arroux, ancien président de l'association des victimes du 21 septembre, qui publie AZF, les fragments du fracas, aux éditions Le Pas de l'Oiseau. Et puis le rédacteur en chef de France Bleu Occitanie, Julien Corbière. France Bleu, qui sort un podcast intitulé « Mon AZF, histoire de Toulousain ». Extrait.
Comme un tremblement de terre. On voit des blessés, on voit les sirènes, on voit les ambulances. On voit les...
Une ville morte, parce que les gens ne pouvaient pas bouger, donc ils étaient coincés dans la bagnole.
J'ai attrapé mon enfant, on s'est caché dans un placard. Tout ciel orange, les murs qui tremblent, j'ai plus de fenêtres.
Ce qui était dingue, c'était la folie que ça a pu générer dans la ville. Tout le monde disait, oh, le Capitole a pété, tout le monde pensait que c'était à côté de lui.
Ce jour-là, on ne sait pas encore que nous sommes 22 000 victimes. On ne sait pas qu'il faudra des années pour réparer Toulouse.
Un extrait de ce podcast en 12 épisodes. Le récit, vous avez peut-être reconnu la voix, c'est Majid Cherfi du groupe Zebda. Bonjour Frédéric Arroux.
Bonjour.
Votre 21 septembre 2001, à vous, quel était-il ?
Il était serein, a priori, jusqu'à 10h. J'avais un rendez-vous chez le médecin pour soigner une cheville défaillante, qu'il est resté longtemps après, hein, puisque j'ai senti très nettement dans cette salle où nous étions plusieurs à faire des exercices d'assouplissement, d'élongation, etc. Nous avons senti le sol trembler. Moi, j'ai pensé que quelqu'un avait laissé tomber un haltère, puisque nous étions nombreux, jusqu'à ce que le médecin sorte et nous demande qu'est-ce qui s'est passé. Et lui et moi, nous sommes sortis dans la rue et nous avons vu très nettement dans le ciel un nuage d'une couleur orange assez terrifiante, et puis les automobilistes arrêtés qui ne s'invectivaient pas, qui étaient sortis de leur voiture et qui regardaient tous le sud-ouest de Toulouse.
Et l'angoisse parce que vous ne saviez pas dans un premier temps comment allaient vos enfants et votre compagne?
Oui, mais alors ma compagne était au nord de Toulouse, donc je n'étais pas inquiète pour sa santé, j'étais inquiète pour ce qu'elle pouvait imaginer. Ma fille était pour la première fois de sa vie, elle avait 8 ans, seule à la maison. C'était la première fois que ça se produisait. Et mon bambin, qui avait 13 mois, était lui à la crèche, il n'était pas seul. Mais là, oui, la frayeur s'est emparée de moi jusqu'au moment où ma fille a réussi à me joindre au téléphone, en pleurs, en me disant « Papa, papa, la maison a explosé, j'étais à 6 kilomètres ». C'est là que j'ai compris, que j'ai commencé à mesurer l'envergure de ce qui venait de se produire.
Et ces témoignages au Standard de France Inter, Jean-Marc, ce jour-là, je n'étais pas à Toulouse, mais dans l'après-midi, je suis rentré et je voulais souligner le silence de mort des radios ou des habitants, ce qui accentuait encore plus l'événement. Et puis Yves nous a appelé au 01 45 24 7000. Bonjour Yves.
Oui, bonjour à tous.
Vous dites
bonjour.
Que votre vie a basculé ce 21 septembre.
Oui, oui, comme je l'ai dit au Standardiste, enfin, moi, ma vie, je pense que tous les Toulousains qui ont vécu ces explosions gardent une cicatrice. Moi, j'ai pas été aux commémorations aujourd'hui ni les années précédentes. Mais je tiens à remercier quand même le Radio France. À l'époque, Jean-Marie Cavada était PDG, a mis en place quelques jours après une radio de solidarité qui s'appelait M Toulouse et qui a beaucoup aidé la population à travers des dons de couverture, de nourriture, de plein de choses. Et ça il faut le dire, je veux dire que dans des moments comme ça, quand même, la radio peut être très importante. Quoi.
Ah ben merci de le signaler. Pourquoi n'êtes-vous pas allé aux cérémonies de commémoration ?
Parce que il y avait trop de dissensions. Au début, j'ai fait partie d'une association, mais au fil des années, il y avait plusieurs associations qui étaient instrumentalisées par les partis politiques, et moi, ça me plaisait pas trop, quoi. Parce que c'est au-delà de tout, quoi. Je dirais que c'est, il faut pas que les partis politiques récupèrent ce genre de choses, quoi. Donc, moi là-dessus, enfin, je me mets à la place des gens qui ont perdu des êtres, des fils, des frères, des pères, etc., qui travaillaient au sein de l'usine, et puis même, des gens qui passaient par là. Donc, mais après, je suis de tout cœur et je serai de tout cœur avec les gens qui étaient sinistrés dans les années qui ont suivi. Il y a eu quand même pas mal l'aspect psychologique de gens qui ont été heurtés.
Est-ce que vous dites fait partie de ces 20 ans? Merci pour ce témoignage. Bonjour Julien Corbière.
Bonjour.
Rédacteur en chef de France Bleu Occitanie. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes arrivé il y a quelques années à Toulouse. Vous êtes arrivé quand?
Moi, je suis arrivé il y a 3 ans, personnellement.
Il y a 3 ans. De quelqu'un qui est là depuis 3 ans, AZF à Toulouse, ça représente quoi?
Alors, moi, j'avais cette vision, j'allais dire comme le 11 septembre, finalement, de quelqu'un de lointain qui l'a vécu, qui se souvient précisément du jour, de l'endroit et avec qui il était à ce moment-là. Et ça m'a marqué. Je racontais ça tout à l'heure à Frédéric qui est dans ce studio avec moi. Ouais. Quand je suis arrivé sur Toulouse, que j'ai commencé à chercher un logement, en visitant les logements, 4 fois sur 5, alors la statistique est peut-être un peu approximative, mais je vais dire 4 fois sur 5, il y avait ce moment où les propriétaires de la maison me racontaient les huisseries, les fenêtres, la porte qui était neuve, et souvent ça avait été changé en 2001, après AZF. Alors neuve ou pas neuve, telle n'est pas la question, mais il y avait ce moment où les gens commençaient à se confier sur leur AZF, sur cette histoire qui était la leur. Une fois sur deux, la personne se mettait à pleurer, et là, c'était un robinet de sentiments, mais dans le bon sens du terme, qui commençait à couler. Et c'est dans cet esprit-là, finalement, qu'on a pensé ici, dans l'équipe de France Bleu Occitanie, ce podcast Mon AZF, avec cette idée de vraiment de donner la parole, alors, aux gens comme Frédéric, qui ont été en première ligne sur ce sujet depuis des années, mais aux Toulousains anonymes, qui ont tous, ou presque tous, leur traumatisme à livrer par rapport à cette histoire. Vous l'avez entendu, j'imagine, dans le podcast, il y a des gens qui se confient sur des choses extrêmement intimes et des choses qui sortent, qui n'étaient jamais sorties. C'était ça aussi un intérêt, j'allais dire presque un peu sociologique, sans prétention aucune de la chose.
Mon AZF, histoire de Toulousain, pour ceux qui ont l'appli Radio France, on le trouve, il est à la une de l'appli Radio France. Frédéric Haroux, vous avez mis combien de temps à retrouver une vie normale? L'appartement, votre domicile, c'était un massacre. Vous avez mis combien de temps?
Alors, il y a eu la question de l'immédiateté. Oui. Mes enfants, ma femme et moi, nous avons été nomades pendant 6-7 mois après l'explosion. Moi, je dirais que j'ai retrouvé une vie normale le jour où j'ai décidé, où j'avais informé un an auparavant mes petits camarades de l'association, que au terme du premier procès, moi, j'en finirai avec ma responsabilité à ZF. Mais je continue à porter quelque chose. Ça n'est pas un fardeau, c'est un devoir maintenant. Ou plutôt, peut-être même une envie.
Alors, on parle depuis ce matin, et on va en parler là dans les minutes à venir, des divisions. Je voudrais souligner quelque chose de positif, parce que vous avez de très jolis mots pour dire les gens qui se sont manifestés, vous parlez des petites mains de la mairie et de la préfecture.
Oui, parce que nous étions des ignorants, j'étais un ignorant. Comment constituer une association, comment sortir du fracas et du chaos. Et c'est vrai que il y a eu une incroyable compassion, mais des fois le terme est un peu équivoque, mais une générosité de ces gens de peu qui effectivement n'avaient pas forcément le pouvoir de faire fermer l'usine, mais qui avaient une grande qualité d'écoute et de compréhension. Et ça, c'est extrêmement précieux dans des moments où on n'a pas toujours les mots pour dire les choses.
Alors, autre extrait du podcast Mon AZF, histoire de Toulousain, le témoignage de Stella Bisseuil, qui est avocate de partie civile. C'est à propos de l'interminable procès. Le directeur de l'usine et grande paroisse filiale de Total n'ont été définitivement condamnés qu'en 2019, 18 ans après les faits, et c'est presque passé inaperçu.
À chaque fois que je parle à quelqu'un de l'affaire AZF, j'ai un point d'interrogation. Ah oui, au fait, comment ça s'est terminé cette histoire? Personne ne sait le fin mot de cette histoire. Et ça, c'est une victoire pour Total, quand même. Ils ont perdu, mais personne ne le sait.
Alors, Julien Corbière, la justice et les experts ont tranché. C'était un accident, un mélange de produits qui a entraîné l'explosion. Pourtant, certains n'y croient pas. J'ai encore la question de Michel. Nous n'avons jamais su véritablement qui était responsable de cette énorme explosion. Où en sommes-nous actuellement? Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas aux conclusions de la justice, à la thèse de l'accident et du mélange des produits, aujourd'hui encore.
Il y a surtout beaucoup de gens qui ne connaissent pas les conclusions de la justice, qui ont abandonné un petit peu cette histoire, cette affaire AZF et le procès qui allait avec, même si tous les médias ont fait leur travail d'information. Mais les passions se sont un peu effacées, et le fait que la condamnation tombe presque 20 ans après les faits, évidemment, a dilué un petit peu ces souvenirs-là. Et puis, il y a eu évidemment toute cette hypothèse de l'attentat dans la foulée du 11 septembre qui est restée imprégnée. Même si vous dites aux gens c'était pas un attentat, c'était un mélange de chlore et de nitrate d'ammonium, ça c'est une vérité établie. Il y a toujours ce spectre de l'attentat qui reste en tête. J'ajouterai, et peut-être que Frédéric va me rejoindre, qu'il y a un autre traumatisme qui s'est ajouté dans la tête des Toulousains depuis, qui a peut-être contribué à diluer un peu le souvenir, c'est l'affaire Mera, l'autre traumatisme collectif qui a touché tout le monde. Et Toulouse, dans une période d'expansion, dans une période où l'aéronautique était vraiment en train de faire la richesse de la ville, a connu deux faits là qui ont vraiment freiné cet élan et peut-être contribué un petit peu à cette dilution des souvenirs et à cette dilution de la vérité judiciaire qu'expliquait Stella Bisseuil.
Frédéric Arroux, ce que vous soulignez dans votre livre aussi, c'est que c'est les quartiers populaires qui ont été largement touchés par cette explosion. Et ça aussi, ça a une importance dans ces 20 ans.
Évidemment. Évidemment qu'une usine ne jouxte pas des quartiers par hasard, et que si ces quartiers ont pris de l'ampleur, c'est qu'on a laissé cette ampleur se développer sans aucune information, sans aucune considération. Et moi, ce que j'ai pu voir, effectivement, nous avons rencontré un préfet à l'écoute, un sous-préfet à l'écoute, mais l'État ne s'est pas écouté et l'État ne s'est pas parler. Il infantilise les masses, il infantilise les citoyens, il ne leur donne pas l'information. Moi, je préfère la connaissance à l'ignorance. Et je crois que les quartiers riverains, il y a un exemple très criant. À un moment, il y a une belle résidence, importante résidence dans ce quartier. Nous l'appelons la Principauté. Là, ce sont des élus qui sont allés expliquer aux habitants qu'il allait falloir peut-être déménager le temps de vérifier la solidité des bâtiments. Mais au Mirail, à Bagatelle, à Papus, à Tabar, dans les quartiers immédiats, là, ce sont les CRS qui sont venus expliquer, entre guillemets, qu'il fallait sans doute évacuer. Il y a deux poids, il y a deux mesures. Je crois que souvent, l'État a peur parce qu'il ignore.
Julien Corbière, à quoi ressemble le site aujourd'hui? Il y a ce parcours mémoriel qui a été inauguré ce matin. C'est quoi ce site AZF aujourd'hui?
Alors, c'est 70 hectares de plaine, quelque part, avec au milieu ce fameux cratère qui reste grillagé. Interdiction d'accès sur ce cratère. Et puis, on a cette grande espace ce grand espace de 70 hectares avec une piste cyclable qui passe le long de la Garonne et qui est connue, on va dire modérément des Toulousains qui n'y passent pas trop encore parce qu'on est quand même à 5 km du centre-ville. Et c'est un site où au milieu trône le mémorial des victimes d'AZF avec depuis quelques jours seulement un parcours mémoriel, 9 panneaux qui relatent l'histoire de l'ONIA d'AZF avant l'explosion en tant que tel, et le site depuis. Et le site depuis, c'est une modernisation, et c'est le projet porté par Philippe Douste-Blazy, le maire de Toulouse à l'époque, de l'Oncopole, le centre de recherche et de traitement du cancer, qui est un des instituts de pointe en Europe et dans le monde sur le sujet. Et bientôt une nouvelle étape que va franchir le site avec le premier téléphérique urbain de France, qui va relier cet Oncopole, cette zone, à la colline de Pêche-David qui est au-dessus. C'est un site qui s'est modernisé, mais j'insiste sur le fait que les Toulousains ne se sont pas vraiment encore appropriés. C'est quelque chose qu'on connaît, on y passe, mais on va pas régulièrement se balader du côté du site AZF.
En un mot, il y a encore des batailles juridiques pour les indemnisations?
La question des indemnisations, elle est close. J'en parlais tout à l'heure avec Stella Bisseuil qu'on a entendu. Il y a plus de procès, il y a plus rien. Le travail, il est à faire maintenant sur la mémoire et sur cette mémoire collective qu'on va peut-être évoquer, parce qu'aujourd'hui, on était encore dans une cérémonie en ordre dispersé avec 3 cérémonies différentes. Je me permets de le dire aussi, aucun membre du gouvernement ou des autorités nationales présents sur place. Donc le travail, il est là à faire aujourd'hui sur l'idée de mettre enfin cette catastrophe d'AZF au rang de la mémoire commune.
Comment fait-on pour cela, Frédéric Arroux, et on terminera là-dessus?
Moi, je m'emparerai de la part qui peut me revenir, c'est-à-dire je suis sollicité depuis quelque temps par des enseignants dans les lycées pour aller raconter, pour aller expliquer. La mémoire ne doit pas être un devoir, mais un besoin. Et je pense que j'ai rencontré Carole Delga, la présidente de Région, ce matin. Je lui ai dit, relayez auprès des enseignants et des lycées. Je suis prêt, mais j'imagine que d'autres, avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord, pourront aller eux aussi porter leur parole. Et puis, il y a le travail qui a été fait par France Bleu, remarquable, les podcasts, et oui, il y a un film magnifique du service public, on retrouve toujours le service public, qui s'appelle AZF, Juan Gardillo et Sandrine Mercier. On peut voir ça. Ce sont vraiment les premières briques de l'histoire d'après.
Merci à tous les deux, et on peut lire votre livre, Frédéric Arroux, AZF, Les fragments du fracas, et donc le podcast Mon AZF, Histoire de Toulouse, 13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire, bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Qu'est-ce qu'une installation artistique? Question alors que l'Arc de Triomphe à Paris est empaqueté, œuvre posthume de Christo et Jeanne-Claude.
Ben, c'est une machine à faire parler.
Eh bien, vous en parlerez fort bien, comme toujours. Tout à l'heure, avant cela, le feuilleton, parole aux militants de gauche. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
La saison théâtrale a repris parmi les pièces qui suscitent la curiosité, celle de Jean-Michel Ribes, J'habite ici, évidemment au Théâtre du Rond-Point à Paris. Jean-Michel Ribes, auteur et metteur en scène, est à votre micro Frédéric. Et
je lui ai tout d'abord demandé de me parler de cette pièce dans laquelle 10 comédiens interprètent une quarantaine de personnages. Le synopsis évoque des policiers poètes, des bourgeois très bourgeois, des fonctionnaires pris à pic, des proustiens désabusés. J'habite ici, c'est le quotidien d'un immeuble, mais ce n'est pas que cela.
J'habite ici, si j'habite dans cette époque, et c'est une déclaration de guerre au marécage de la bien-pensance et aux talibans du bon goût.
Cette pièce, c'est une pièce de bon goût ou une pièce de mauvais goût?
C'est une pièce en révolte, mais le bon goût, souvent, c'est fade. Ça n'a pas bon goût, justement. C'est une pièce aussi qui ne se prend pas au sérieux. Tout ça, c'est comme ce que disait Alphonse Allais, ne vous prenez pas trop au sérieux, il n'y aura pas de survivants.
Vous, vous en pensez quoi de cette époque?
Je la trouve molle, je la trouve sans éclat, je la trouve dans un espèce de consensus mou permanent. Vous savez, moi je suis très mal équipé pour la réalité. Donc il faut que je la réinvente pour pouvoir la supporter.
J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa.
Et c'est donc un titre de Vianney qu'a choisi de nous faire écouter Jean-Michel Ribes.
Sa chanson « Beau papa », sur un texte autobiographique dans lequel il exprime son affection, son amour pour la fille de sa compagne, une histoire qui fait écho à celle de Jean-Michel Ribes, avec lui dans le rôle de l'enfant, lui qui aimait énormément son beau-papa.
Moi je trouve que beau-papa c'est très bien parce que c'est un endroit de la famille qui est toujours décrié. Cette espèce de côté parâtre, marâtre, etc. Moi j'ai eu un beau-père magnifique qui était peintre. Il s'appelle Jean Cortot, il était le deuxième mari de ma mère. Et c'est vrai que sans lui je ne serais peut-être pas devant vous. C'est-à-dire que j'avais 6 ans quand il a réépousé ma mère et c'est vrai que j'avais très peur de devenir adulte, mais quand j'ai vu ses amis qui étaient peintres, poètes, il y avait Queneau, il y avait Miro, il y avait des gens qui venaient comme ça, ça me rassurait, je me disais, si c'est ça devenir adulte, je veux bien, parce qu'ils étaient cocasses, extravagants, gentils, drôles. Et ça, cette respiration-là, ça m'a permis de trouver des chemins de traverse.
Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage, et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi, j'avoue, qui me suis invité. Dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé.
Vous, vous le considériez comment, votre beau-papa ?
Il m'a apporté tout ce que mon père m'a jamais apporté, c'est-à-dire passerelle vers la création, les arts et tout ça, sans m'y forcer, mais il a disparu il y a 2 ans et vraiment, je le regrette tous les jours. Quand j'étais avec lui, voilà, c'était bien, on parlait de choses qui tout d'un coup me préoccupaient ou m'intéressaient ou auxquelles j'étais sensible. Et c'était un rapport à la fois affectif, d'échange, sur un tableau, un livre, etc., sur des gens, des échanges d'opinions, mais qui étaient toujours construits à travers à la fois l'esprit de géométrie, mais aussi l'esprit de finesse.
La première fois que vous avez entendu cette chanson de Vianney, vous avez pensé à lui tout de suite?
Ça m'a rappelé que ce cliché que le beau-père ou la belle-mère sont toujours des gens pas adaptés, dérangeants. Souvent, c'est le contraire. Soit Viviane, c'est ça. Ça devient un père plus. Et moi, j'aime bien qu'il ait chanté ça.
Beau papa de Vianney, c'était donc Frédéric, le choix de Jean-Michel Ribes.
Beau-fils du peintre Jean Cortot et directeur du théâtre du Rond-Point, où l'on donne jusqu'au 17 octobre sa nouvelle pièce, J'habite ici.
Il est 13h50. Une semaine dans la vie de militants de gauche, c'est notre feuilleton jusqu'à vendredi avec Laurence Perron, alors que les candidatures à la présidentielle se multiplient à gauche. Hier, deux militants socialistes, aujourd'hui un écologiste, alors que l'entre-deux-tours de la primaire écolo est plein d'incertitudes. Pourquoi s'est-il engagé chez Europe Écologie Les Verts? Quel parcours? C'est ce qu'il a raconté à Laurence. C'est l'un de ces militants encore plus chaud que le climat pour agir politiquement.
Je m'appelle Antoine, je suis entrepreneur. J'ai créé une société il y a 6 ans dans le secteur du handicap et de la dépendance. Et avant ça, je faisais des études d'ingénieur dans l'industrie automobile. Je travaillais sur la réduction de l'impact environnemental de la conception des véhicules. Donc rien à voir avec ma vie d'entrepreneur. Et à un moment, j'ai décidé de m'engager politiquement. J'ai donc à ce moment-là rejoint Europe Écologie Les Verts. Et c'était il y a bientôt 3 ans, c'était avant la campagne des européennes. Mais c'était pas évident au départ, puisque ma famille n'est pas du tout chez Europe Écologie et encore moins à gauche. Et donc c'est vrai que pour eux ça a été une surprise, mais moi c'est une construction logique depuis plusieurs années. Et je suis très fier aujourd'hui de porter haut et fort les valeurs prônées par Europe Écologie. Et ce que j'y trouve aussi dans ce parti, ce qui m'a fait d'autant plus rester, c'est leur capacité à appliquer ce qu'ils prônent politiquement, et notamment la démocratie interne, le respect des militants, quelle que soit leur ancienneté. Aujourd'hui, la politique est polarisée et violente, c'est extrêmement nécessaire et utile, et je trouve qu'on y arrive plutôt bien chez nous, et j'espère qu'un jour on arrivera à le porter à une échelle plus large.
C'est drôle parce que c'est pour autant ce qui est beaucoup moqué chez les écologistes depuis longtemps, leur démocratie interne dont on considère qu'en fait elle conduit les écologistes à être comme des hamsters dans une roue, à tourner et à finalement ne dégager aucune électricité.
Alors ça, c'est la vision qu'on en a, mais quand on regarde finement ce que produit Europe Écologie Les Verts en tant qu'idée, par exemple, ça fait 20 ans que certaines idées sont portées par Europe Écologie Les Verts et qu'aujourd'hui commence à faire résonance. Et aujourd'hui, sans politique politicienne, Europe Écologie est un des partis à gauche qui produit le plus d'idées nouvelles, et je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui.
À partir de quel moment, en tout cas, l'idée politique jaillit dans vos préoccupations?
Alors au départ, moi j'ai toujours voté à toutes les primaires de tous les partis. Quand j'étais jeune, le vote m'intéressait. Et je pense notamment moi à la primaire de la droite. Je voulais pas que ce soit François Fillon. J'ai été voté Juppé par exemple. En 2011, j'ai été voté aussi aux primaires de la gauche. Enfin voilà, j'étais un peu...
Vous avez voté Benoît Hamon ?
Non, j'avais pas voté Benoît Hamon à l'époque. Mais je trouvais que Benoît Hamon, dans ses idées, et je reviens à ça... est extrêmement intéressant. Le revenu universel, par exemple, c'est des choses aujourd'hui qu'on porte depuis longtemps chez les Verts, mais qu'en tout cas, qu'a essayé de porter Benoît Hamon, ça n'a pas forcément fonctionné, mais je pense que le débat était nécessaire. Bref, après mes expériences personnelles, j'ai travaillé, par exemple, pendant un an dans une usine à Hénin-Beaumont. J'avais fait le choix de partir bosser dans l'industrie pour comprendre ce qu'était la difficulté et la réalité industrielle dans un territoire enclavé, un territoire de l'extrême droite. Après, j'ai monté une boîte dans le secteur du handicapé et de la dépendance. Je vais beaucoup en EHPAD, dans des structures de polyhandicapés. Ça aussi, je pense que ça a construit mon ancrage un peu plus à gauche aussi, la réalité de la difficulté des métiers. Après, moi, j'ai une toute petite société. Mais j'ai recruté, j'ai fait le choix, uniquement avec un prisme des compétences, de recruter un Tunisien, un Camerounais, des gens qui étaient compétents, plus que l'étaient certains Français d'ailleurs. Mais ça, on ne veut pas le voir, on ne l'écoute pas en France. On a une difficulté à s'ouvrir à la différence. Ça, c'est aussi un marqueur fort chez Europe Écologie Les Verts, que je soutiens évidemment. Ce que prône Europe Écologie, c'est une écologie politique. L'écologie politique, c'est 3 pieds. C'est évidemment la défense de l'environnement et de la biodiversité. Ça, c'est un des piliers. Mais... elle ne pourra être mise en place, cette défense, que si on a un autre pied qui est la justice sociale, le pilier démocratique. L'un ne peut pas aller sans l'autre aujourd'hui. On nous dit à droite, on est écologiste. Les de la droite nous disent, on est écologiste. Mais non, s'il n'y a pas la défense de la démocratie et de la justice social, on ne peut pas faire d'écologie. C'est antinomique, en fait, de dire être de droite et être écologiste. Et c'est aussi ça mon engagement aujourd'hui.
Une semaine dans la vie de militant de gauche, paroles recueillies par Laurence Perron, réalisation du feuilleton Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Ce fut la promenade dominicale de beaucoup de Parisiens ce week-end. Aller voir l'Arc de Triomphe emballé par Christo et Jeanne-Claude, œuvre posthume. C'est l'un des événements artistiques de cette rentrée. L'installation Jean Lebrun, c'est votre vif de l'histoire, sera visible jusque début octobre.
Et la croix a titré en une cette installation à l'élégance d'un cadeau d'adieu. Oui, Christo et son épouse Jeanne-Claude nous l'offrent de manière posthume. Ils sont nés le même jour de 1935, ils sont morts maintenant toutes deux, mais ils ont un neveu qui a repris le flambeau une dernière fois et qui, comme eux, a trouvé les sources d'autofinancement sans qu'il n'en coûte rien aux Parisiens. La première intervention des Cristaux dans la capitale, avant l'emballage du Pont Neuf, 1985, avec ses flancs, ses parapets, jusqu'à ses réverbères, c'était dans une étroite voie de la rive gauche. Dès 1962, ils l'avaient barré à un moment avec des barils de pétrole entassé en écho à la construction brutale du mur de Berlin. Une installation, c'est ça, c'est faire vivre à un lieu un moment d'émotion, comme une retenue qui soudain fait monter le niveau d'un cours d'eau.
Et la rue en question, 62, c'était la rue Visconti, plus de 20 ans donc avant le Pont Neuf. L'installation de l'Arc de Triomphe a cette année provoqué beaucoup moins d'émoi que l'emballage du Pont Neuf.
Enfin, ça commence à réagir, même du côté du Figaro. Il faut dire que le Figaro, que j'aime tant citer, avait été rassuré. La cérémonie du ravivage quotidien de la flamme ne serait pas troublée. En 85, il reprenait à son compte les propos du patron royaliste de la compagnie des bateaux-mouches. Sur le Pont Neuf, on a toujours trouvé un moine, un cheval et une putain. C'était supposé que Christo était un affairiste. Remarquez que moi-même, je dois battre ma coulpe. J'étais alors journaliste à La Croix, le journal qui fait aujourd'hui toute sa une sur Christo, et le rédacteur en chef d'alors, qui était plein de bon sens, avait décrété, nous ne servirons pas de caisse de résonance à cette extravagance. Moi vivant, on ne parlera pas du Pont Neuf. Alors j'étais fier d'avoir contourné cette interdiction, mais j'ai relu ce qu'au final j'avais pu écrire en 85. C'était pas aussi favorable que je le croyais. Si je reconnaissais à Christo la vertu de refuser les commandes et les pensions, je le traitais tout de même de courtisan, et j'étais pas si loin du Figaro. Comme quoi, un rédacteur en chef, ça a de l'influence.
Ici, on dit une rédactrice en chef.
Oui, Frédéric Pommier dit, moi, je fais ce qu'on me demande. En fait, avec le temps, nous nous sommes familiarisés avec les installations qui ne sont pas nécessairement des provocations. À l'Arc de Triomphe, la provocation, c'est les manifestants gilets jaunes qui l'ont commise. Ou bien les militants de mai 68 qui l'ont évité de peu quand ils avaient envisagé de cuire un œuf à la coque sur la flamme du soldat inconnu. Alors les limites sont vite franchies, il est vrai. Quand Pascal Convert installe le squelette du cheval qui porta Bonaparte à Marengo au-dessus du tombeau de Napoléon aux Invalides, est-ce que c'est pas une provocation? Après tout, les chevaux ont bien été des soldats, répond-on. Le cinéaste Jean Rouch avait, lui, imaginé de sacrifier un poulet sur le dit tombeau. Alors ça partait d'une bonne intention, c'était pour que Napoléon ne reste pas maudit jusqu'à la fin des temps pour avoir éliminé Toussaint Louverture. Mais il n'obtint pas l'autorisation et dut tourner à l'extérieur.
Il faut dire que les autorisations demandent de la patience.
Oui, et de l'habileté
pour le Pont Neuf.
Pour le Pont Neuf, ouais. Les Cristaux ont dû faire appel à Claude Pompidou, la veuve du président, pour convaincre les résidents alentours, qui ont une certaine surface sociale. Elle l'a aidé aussi à persuader le maire de Paris, Jacques Chirac. À cette époque, le gouvernement socialiste ne s'entendait pas du tout avec Jacques Chirac, mais Jacques Lang a quand même été d'accord avec lui. Les titulaires de l'intérieur, des transports, ont suivi. J'avais un peu raison en 85 quand je disais que les Cristaux savaient stationner dans les antichambres.
La place de l'Étoile, d'ailleurs, sera réservée aux piétons les deux week-ends qui viennent.
Interdiction de rouler. On sait que la maire de Paris a une stratégie, c'est l'embouteillage, et elle a trouvé un allié, c'est l'emballage.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, juste avant 14h tous les jours. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré dans quelques minutes. Quel sera le programme, Mathieu?
Nous allons parler pollution numérique.
Pollution numérique, c'est noté, à tout de suite.